Cinquième couplet. La tortue. 1. Mia dit : On parlera mieux, plus vite et plus facilement si on le fait face à face.
Mais comment ?
Demanda Susanna. On va tenir palabre dans le château, répondit vivement Mia. Le château sur la Bisse, dans la salle de banquet. Tu te rappelles la salle de banquet ? Après une hésitation, Susanna acquiesça. Elle n'avait recouvré que récemment ses souvenirs de la salle de banquet. Ils étaient donc encore vagues. Elle ne s'en plaignait pas, d'ailleurs. Mia avait baffré là-bas, avec enthousiasme, pour le moins. Elle s'était servie dans tous les plats, avec les doigts la plupart du temps, et avait bu dans plusieurs verres, le tout en parlant à des tas de fantômes, à chaque fois avec des voix d'emprunt. D'emprunt ? Bon sang, des voix volées, oui. Pour deux d'entre elles, Susanna les connaissait très bien. La première avait les accents nerveux et le côté bêcheur de la voix mondaine d'Odetta Holmes. La seconde rappelait plutôt le beuglement braillard à la « je m'en fous pas mal » de Detta. L'usurpation de Mia avait gagné toutes les facettes de la personnalité de Susanna, semblait-il. Et si Detta Walker était de retour, tellement remontée et prête à en découdre, c'était en grande partie dû à l'intervention de cet inconnu indésirable. « Le pistolero m'a vu là-bas, » dit Mia. « Et le garçon aussi. » Elle marqua un temps d'arrêt, puis reprit « Je les ai déjà rencontrés tous les deux. »
Qui ? Jake et Roland ?
Si fait, eux.
Où ? Quand ?
Comment pourrais-tu les... On ne peut pas parler ici, s'il te plaît. Trouvons-nous un coin plus intime.
Un coin avec un téléphone, c'est ça que tu veux dire ? Pour que tes amis puissent t'appeler ?
Je ne sais que peu de choses, Susanna de New York, mais le peu que je sache... Je pense que tu serais heureuse de l'entendre. C'était aussi ce que pensait Susanna. Et bien qu'elle n'eût pas particulièrement envie de voir Mia exaucer son souhait, elle aussi avait hâte de quitter la deuxième avenue. Pour un éventuel piéton, sa chemise avait peut-être l'air éclaboussée de crème au chocolat ou de café séché, mais Susanna elle-même avait une conscience aiguë de ce sang sur elle. Pas n'importe quel sang, mais le sang d'une femme courageuse qui avait su se battre jusqu'au bout pour sauver les enfants de sa ville. Et puis, il y avait ses sacs, éparpillés à ses pieds. Elle avait vu des tas de Falken à sacs, à New York, si fait. Maintenant, elle avait l'impression d'en être une elle-même, et ça ne lui plaisait pas. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait été élevée, aurait dit sa mère. À chaque fois qu'elle croisait le regard d'un passant sur le trottoir ou coupant par le petit parc, elle avait envie de lui dire qu'elle n'était pas folle, contrairement aux apparences. Sa chemise tachée, son visage dégoûtant, ses cheveux trop longs et en désordre... Sans sac à main, rien que ses trois sacs à ses pieds. Sans abri, si fait. Pouvait-on être plus à la rue qu'elle ne l'était, non seulement sans lieu où aller, mais hors de tout temps? Sans abri, mais avec toute sa tête. Il lui fallait palabrer avec Mia, comprendre ce qui se passait ici. Voilà qui était certain. Quant à ce qu'elle voulait... C'était bien plus simple. Se laver, enfiler des vêtements propres et se cacher des regards extérieurs pendant au moins un petit moment.
Autant vouloir décrocher la lune, trésor,
se dit-elle à elle-même. Et à Mia, si cette dernière l'écoutait.
L'intimité, ça coûte de l'argent. Tu te trouves dans une version de New York où le moindre hamburger te coûtera au minimum $1. Si dingue que ça puisse paraître. Et tu n'as pas un sou sur toi. Rien qu'une douzaine de plats affûtés et une boule de cristal genre magie noire. Alors, tu comptes faire quoi ?
Avant qu'elle ait pu approfondir la question,
New York fut balayée du décor et elle se retrouva dans la grotte de la porte. Lors de sa première visite, elle n'avait pratiquement pas prêté attention à ce qui l'entourait. C'était Mia qui était aux commandes, pressée de fuir par la porte. Mais à présent, tout apparaissait très clairement. Le père Callahan était là, ainsi qu'Eddie, et son frère en un sens. Susanna entendait la voix d'Henry Dean remonter des profondeurs de la grotte, à la fois sarcastique et consternée. « Je suis en enfer, frérot. Je suis en enfer et je peux pas me faire un fixe. Et tout ça, c'est ta faute. » Le sentiment de confusion de Susanna n'était rien, comparé à la fureur que déclencha en elle cette voix autoritaire et capricieuse.
« Presque tout ce qui est arrivé de mal à Eddie, c'était ta faute à toi !»
hurla-t-elle.
« Tu aurais mieux fait de rendre service à tout le monde et de mourir jeune, Henry !»
Les autres personnes présentes dans la grotte ne tournèrent même pas la tête vers elle. Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-elle venue Vahadash depuis New York, juste pour s'éclater un peu? Si tel était le cas, pourquoi n'avait-elle pas entendu le carillon?
Chut, chut, mon amour!
C'était la voix d'Eddie dans sa tête, claire comme de la roche.
Regarde plutôt!
Tu l'entends? Demanda-t-elle à Mia.
Est-ce que tu...
Oui! Maintenant la ferme!
Combien de temps va-t-on devoir rester là, d'après vous?
Demanda Eddie à Callahan.
Un bon moment, j'en ai peur, répondit ce dernier.
Et Susanna comprit qu'elle assistait à une scène qui s'était déjà produite. Eddie et Callahan s'étaient rendus à la grotte de la porte pour essayer de localiser Calvin Tower et son ami Dipno, juste avant l'épreuve de force avec les loups. C'était Callahan qui avait passé la porte. La 13e noire s'était emparée d'Eddie pendant l'absence du père. Elle l'avait presque tué. Callahan avait reparu juste à temps pour empêcher Eddie de se jeter dans le ravin, en contrebas. Maintenant, néanmoins, Eddie sortait le sac. Rose. Oui, elle savait qu'elle avait raison. Du côté de la Cala, il était rose. Dessous l'encombrante bibliothèque de livres rares de Say Tower en le traînant au sol. Ils avaient besoin de la boule de cristal dans le sac, pour la même raison que Mia la voulait. Parce qu'elle ouvrait la porte dérobée. Eddie le souleva, pivota sur lui-même, puis s'immobilisa brusquement. Il fronçait les sourcils.
« Que se passe-t-il ? » demanda le père Callahan.
« Il y a quelque chose là-dedans, » répondit le jeune homme.
« La boîte ?
Non, dans le sac, cousu dans la doublure. On dirait une sorte de petit caillou. »
Soudain, Susanna eut l'impression qu'il la regardait bien en face, et elle se rendit compte qu'elle était assise sur ce banc, dans le parc. Elle n'entendait plus les voix de la grotte, mais le sifflement liquide de la fontaine. La grotte s'évanouit peu à peu. Eddie et Callahan s'évanouirent peu à peu. Elle entendit les dernières paroles d'Eddie comme si elles venaient d'outre-tombe.
« Peut-être qu'il y a une poche secrète ?»
Puis, il disparut. 2. Elle n'était pas du tout allée Vahadash alors. Sa brève visite à la grotte de la porte avait été une espèce de vision. Était-ce Eddie qui la lui avait envoyée? Et dans ce cas, est-ce que ça signifiait qu'il avait reçu le message qu'elle lui avait adressé depuis le Dogan? Susanna ne pouvait répondre à ces questions. Si elle devait le revoir un jour, elle le lui demanderait. Enfin, après l'avoir embrassé quelques milliers de fois, bien sûr. Mia ramassa le sac rouge et passa lentement les mains le long du tissu. Elle sentait bien la forme de la boîte à l'intérieur. Mais au milieu du sac, elle remarqua aussi une petite bosse sous ses doigts. Et Eddie avait raison. On aurait dit un caillou. Elle, ou elle peut-être, ça n'avait plus d'importance à ses yeux, déroula le tissu, essayant de ne pas tenir compte de la pulsation croissante que dégageait cette chose cachée à l'intérieur. Voilà, juste là, à l'intérieur. Et on aurait dit une couture aussi. Elle se pencha plus près et constata qu'il ne s'agissait pas d'une couture, mais d'une sorte de fermeture. Elle ne reconnut pas la matière, Jack non plus n'aurait pas pu. Mais Eddie leur aurait appris que c'était du velcro. Elle-même avait entendu l'hommage d'un certain ZZ Top, une chanson intitulée « Velcro Fly ». Elle glissa un ongle dans la fermeture et tira du bout du doigt. Elle entendit comme un bruit lent de déchirure et une petite poche apparut à l'intérieur du sac. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mia, fascinée malgré elle. « Eh bien, c'est ce qu'on va voir. » Elle tendit la main et extirpa non pas un caillou, mais une petite amulette en forme de tortue. En ivoire, apparemment. Tous les minuscules détails de la carapace étaient précisément ciselés, mais une éraflure miniature la zébrait comme un point d'interrogation. La tortue tendait le cou et sa tête sortait à demi de la carapace. Deux minuscules pointes noires d'une matière goudronneuse formaient les yeux, qui avaient l'air incroyablement vivants. Elle nota une autre imperfection dans le bec de l'animal, non pas une éraflure, mais plutôt une fissure. « Elle est vieille, » murmura-t-elle à voix haute. « Tellement vieille. » « Oui, » répondit Mia dans un souffle. La tenir procurait à Susanna une incroyable sensation de bien-être, une sensation de sécurité, étrangement. « Vois la tortue comme elle est grande, » pensa-t-elle. « Le monde entier tient sur son dos. » C'était bien ça? Dans son souvenir, elle n'était pas tombée trop loin. Et bien sûr, c'était ce rayon-là qu'ils avaient emprunté vers la tour. L'ours à une extrémité, Chardic, et à l'autre, la tortue, Mathurin. Elle baissa les yeux vers le totem miniature qu'elle avait trouvé dans la doublure du sac, puis le compara à celui de la fontaine. Mis à part la différence de matière, la tortue à côté de son banc était faite d'un métal sombre constellé d'éclats cuivrés scintillants. Les deux animaux étaient rigoureusement identiques, jusqu'à l'éraflure sur la carapace et la petite fissure en biseau dans le bec. L'espace d'une seconde, son souffle s'arrêta. Son cœur aussi. Dans cette aventure, elle progressait pas à pas, parfois même au jour le jour, sans trop réfléchir, en se laissant simplement porter par les événements. Et ce cas auquel Roland tenait visiblement beaucoup. Et puis il survenait une chose de ce genre qui lui laissait soudain entrevoir un tableau bien plus vaste qui la tétanisait d'effroi et d'émerveillement. Elle pressentait des forces que son entendement ne pouvait saisir. Certaines, comme cette boule dans la boîte de bois fantôme, étaient maléfiques. Mais ça... ça... Waouh ! Fit quelqu'un, en soupirant presque. Elle leva les yeux et vit un homme d'affaires, talentueux visiblement, à en juger par son costume, qui se tenait debout près du banc. Il avait traversé le parc en chemin vers un lieu aussi important qu'il l'était lui-même, une réunion ou un congrès quelconque, peut-être même aux Nations Unies, qui se trouvait tout près, sauf si ça aussi avait changé. Mais là, il s'était arrêté net. Sa mallette ruineuse pendait dans sa main droite. Il écarquillait ses yeux fixés sur la tortue posée sur la paume de Mia. Et un large sourire ravi, évoquant celui d'un drogué, flottait sur ses lèvres.
« Range-la !» s'écria Mia alarmée. « Il va la voler !»«
J'aimerais bien qu'il essaie un peu, pauvre !» répliqua Detta Walker d'une voix détendue plutôt amusée. Le soleil s'était montré et elle en entier, prit soudain conscience que tout le reste mis à part, c'était une journée splendide, précieuse, magnifique.
Précieuse, splendide et magnifique, fit l'homme d'affaires.
Oh, peut-être était-il diplomate, qui avait complètement oublié ses affaires. Parlait-il de cette journée ou de la petite tortue ?
Des deux, pensa Susanna.
Et elle se dit soudain qu'elle comprenait. Jake aussi aurait compris, lui plus que quiconque. Elle éclata de rire. À l'intérieur d'elle, Detta et Mia rirent aussi, Mia un peu contre son gré. Et l'homme d'affaires, ou le diplomate, il se mit à rire lui aussi.
« Oui, les deux, » dit l'homme d'affaires.
Avec son léger accent scandinave, « deux » devenait « te ».
Quelle belle chose vous avez là.
Quelle belle chose vous avez là. Oui, elle était belle, c'est vrai. Un ravissant petit trésor. Et un jour pas si ancien, Jack Chambers avait découvert quelque chose d'étrangement semblable. Dans la librairie de Calvin Tower, Jake avait acheté un livre intitulé « Charlie le Chouchou » de Beryl Evans.
Pourquoi ?
Parce que ce livre l'avait appelé. Plus tard, peu de temps avant que le cathète de Roland arrive à Calabrin Sturgis, en fait, le nom de l'auteur s'était changé en Claudia et Inès Bachmann, l'intégrant ainsi au cathète de 19, un cathète en perpétuelle expansion. Jake avait glissé dans ce livre une clé dont Eddie avait sculpté un double, dans l'entre-deux-monde. La clé de Jake avait fasciné les gens qui l'avaient vue, tout en les rendant extrêmement influençables. Tout comme cette clé, la tortue miniature avait son double. Susanna était assise juste à côté. La question était de savoir si cette tortue présentait d'autres ressemblances avec la clé de Jake. À en juger par l'air subjugué de l'homme d'affaires scandinave, Susanna était quasiment certaine que la réponse était oui. Elle se dit « Hé, copine, il n'y a pas à s'inquiéter, tu n'es pas à la rue, car tu as la tortue. » Cette comptine était tellement grotesque qu'elle en rit toute seule, à voix haute.
« Laisse-moi m'occuper de ça, » dit-elle à Mia.
« T'occuper de quoi ? Je ne comprends pas. »
« Je le sais bien. Alors laisse-moi faire, d'accord ?»
Elle n'attendit pas la réponse de Mia. Elle se tourna vers l'homme d'affaires, lui décocha un sourire éclatant et plaça la main à hauteur de ses yeux afin qu'il pût contempler la tortue à son aise. Il la fit flotter de droite à gauche et constata que les yeux de l'homme en suivaient le mouvement. Bien que sa tête, ornée d'une impressionnante crinière blanche, resta immobile.
« Comment vous appelez-vous, Sai ? »
demanda Susanna.
« Mathisen van Wyk, »
répondit-il, tandis que ses yeux roulaient dans leurs orbites, un peu comme ceux de la tortue. « Je suis le deuxième assistant de l'ambassadeur de Suède aux Nations Unies. Ma femme a un amant. Ça m'attriste. Mais j'ai de nouveau un transit intestinal normal. La tisane que m'a recommandée la masseuse de l'hôtel a marché, ce qui me rend heureux. » Il marqua une pause puis ajouta « Votre scolpata me rend heureux. »
Susanna était fascinée. Si elle demandait à cet homme de baisser son pantalon et de vider ses intestins à nouveau en état de marche sur le trottoir, le ferait-il ?
Bien sûr que oui. Elle jeta un regard rapide autour d'eux et ne vit personne à proximité. Ce qui était une bonne chose, mais elle se dit que ça ne la dispensait pas de transférer ses affaires ici aussi vite qu'elle le pourrait. Jake avait rameuté un paquet de monde avec sa petite clé. Elle n'avait aucune envie de faire de même si elle pouvait l'éviter.
« Mathisen,
commença-t-elle, vous avez dit que... »«
Mats. »«
Pardon ?»«
Appelez-moi Mats, si vous le voulez bien. Je préfère. »«
Très bien, Mats. Vous avez parlé d'un... »«
Vous parlez suédois ?»«
Non. » »«
Alors poursuivons en français. »
Oui, j'aimerais autant.
J'ai une situation très importante, ajouta Mats, sans quitter une seconde la tortue des yeux. Je rencontre plein de gens importants. Je me rends à des cocktails où de belles femmes portent la fameuse petite robe noire.
Ça doit être l'éclate pour vous. Mats, je veux que vous la boucliez et que vous ne l'ouvriez que quand je vous poserai une question directe. Vous voulez bien ?
Mats ferma la bouche. Il fit même une petite mimique comique, comme s'il se tirait une fermeture éclair en travers des lèvres. Mais à aucun moment il ne quitta des yeux la tortue.
« Vous avez parlé d'un hôtel. Vous êtes à l'hôtel ?»«
Ya. Je suis à l'hôtel Hyatt Plaza Park, au coin de la première et de la 46e. Bientôt j'aurai un appartement dans un complexe résidentiel. » Mats sembla soudain mesurer qu'une fois encore il en disait trop, et la ferma. Susanna se mit à réfléchir furieusement, tenant la tortue à hauteur de sa poitrine, afin que son nouvel ami pût la voir distinctement.
« Mats, écoutez-moi bien, d'accord ?»«
J'écoute pour entendre, maîtresse Aïe, et j'entends pour obéir. »
Ce qui la secoua d'un mauvais frisson, surtout dit avec le ravissant accent germanisant de Mats. « Vous avez une carte de crédit ?»
Mats sourit avec fierté. « J'en ai plein. J'ai une American Express, une Mastercard et une Visa. J'ai aussi une carte Eurogold et une... »«
Bien, c'est bien. Je veux que vous retourniez au... »
L'espace d'une seconde, elle eut un blanc, puis la mémoire lui revint.
« Au Plaza Park, et que vous preniez une chambre. Une chambre pour la semaine. Si on vous pose la question, dites que c'est pour un de vos amis, une de vos amies. »
Et c'est alors que lui vint à l'esprit une perspective bien désagréable. On était à New York, au nord, en 1999. Et on aimait à croire que les choses progressaient dans le bon sens, mais on n'était jamais trop prudent.
« Est-ce que le fait que je sois une négresse risque de poser problème ?»«
Non, bien sûr que non, » répondit-il d'un air surpris.
« Réservez la chambre à votre nom et dites à la réception que c'est une femme du nom de Susanna Miyadine qui l'occupera. Vous avez compris ?»«
Ya. » Susanna Miyadine.
Quoi d'autre ?
L'argent, bien sûr. Elle lui demanda s'il en avait. Son nouvel ami sortit son portefeuille et le lui tendit. Tout en farfouillant d'une main dans le très joli modèle Lord Broxton, de l'autre elle tenait toujours la tortue à hauteur du regard. Elle trouva une liasse de traveler check qui ne lui serait d'aucune utilité avec cette signature de fou complètement alambiquée, et environ 200 dollars en bonne vieille monnaie américaine. Elle s'empara de la somme et la plaça dans le sac Borders qui contenait auparavant les chaussures. En relevant les yeux, elle constata avec effroi que deux Jeannette, d'environ 14 ans et portant toutes deux des sacs à dos, avait rejoint l'homme d'affaires. Elle contemplait la tortue avec les yeux brillants et les lèvres humides. Susanna se rappela malgré elle le public le soir où Elvis Presley était passé au Ed Sullivan Show.
« Trop cool !»
lança l'une d'elles, presque dans un souffle.
« Top délire !»
ajouta l'autre.
« Retournez à vos affaires, les filles, »
fit Susanna. Leurs visages s'affaissèrent, reflétant le même air triste. On aurait presque pu les prendre pour des jumelles de la Cala.
« On est obligé ?»
demanda l'une d'elles.
« Oui, »
insista Susanna.
« Grand merci, Sai, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, »
fit la seconde. Des larmes lui roulaient sur les joues. Son amie se mit à pleurer, elle aussi.
« Oubliez que vous m'avez vu !»
leur lança Susanna tandis qu'elle s'éloignait. Elle les suivit d'un regard anxieux jusqu'à la deuxième avenue, où elles bifurquèrent vers les quartiers chics, puis reporta son attention sur Mats Van Wyk.
Vous aussi, secouez-vous, Mats. Bougez votre graisse jusqu'à l'hôtel et réservez une chambre. Dites-leur que votre amie Susanna ne va pas tarder à débarquer.
Que veut dire « bougez votre graisse » Je ne comprends. Ça veut dire « et que ça saute ». Elle lui rendit son portefeuille, moins le liquide, regrettant de n'avoir pas pu regarder plus longuement ses cartes en plastique, car elle se demandait comment on pouvait en avoir autant.
Une fois que vous aurez réglé cette histoire de chambre, retournez là où vous alliez et oubliez que vous m'avez vu.
Alors, comme les gamines en uniforme vert, Mats se mit à sangloter. « Je dois aussi oublier la Skolpata ?»«
Oui. »
Susanna se remémora un hypnotiseur qu'elle avait vu dans une émission de télé quelconque. Peut-être même le Ed Sullivan Show.
« Plus de tortues. Mais vous vous sentirez bien pour le reste de la journée. Vous m'entendez ? Comme si vous aviez... »
Un million de dollars ne devait pas représenter tant que ça pour lui. Et pour ce qu'elle en avait vu, un million de couronnes n'aurait pas suffi à lui offrir une coupe de cheveux.
Vous allez vous sentir comme l'ambassadeur de Suède lui-même, et vous arrêterez de vous inquiéter pour le Jules de votre femme. Qu'il aille au diable, d'accord ?
Ya ! Qu'il aille au diable ! S'écria Mats. Et bien qu'il fût toujours en train de pleurer, un sourire perçait maintenant à travers ses larmes. Ce sourire avait quelque chose de divinement enfantin. Quelque chose qui rendit soudain Susanna triste et joyeuse à la fois. Elle voulait faire plus pour Mats Van Wyk, si elle le pouvait.
« Et pour vos intestins,
ya ?»«
Comme sur des roulettes, jusqu'à la fin de vos jours. » fit Susanna, relevant la tortue devant les yeux de l'homme. « Quelle est votre heure en général, Mats ?»«
Je vais juste après le petit déjeuner. »«
Alors c'est là que ça se passera, jusqu'à la fin de vos jours. Sauf si vous êtes très occupé. En retard pour un rendez-vous, par exemple, vous n'aurez qu'à dire « Mathurin » et l'envie vous passera jusqu'au lendemain.
« Mathurin ?»«
C'est ça. » « Maintenant, allez-y. »«
Je ne peux pas emporter la Skolpata. »«
Non, vous ne pouvez pas. Allez-y maintenant. »
Il s'éloigna, puis s'arrêta et se retourna vers elle. Il avait les joues humides, mais son visage exprimait plutôt l'espièglerie et une pointe de sournoiserie. « Peut-être que je devrais la prendre, » dit-il. « Peut-être qu'elle m'appartient de droit. »« J'aimerais bien voir ça, sale culé de cul blanc !» répondit Déta en pensée. Mais Susanna, qui se sentait de plus en plus responsable de ce trio de barjots, au moins pour l'instant, la fit taire.
« Qu'est-ce qui vous fait dire ça, mon ami ? Dites-le-moi, je vous prie. »
Le regard demeura sournois.
« Et c'est pas d'embrouiller un embrouilleur, » disait ce regard.
Enfin, c'est ce que lisait Susanna, en tout cas. « Mats Mathurin, » dit-il. « Mathurin Mats. Vous voyez ?» Susanna voyait, oui. Elle allait lui dire que ce n'était là qu'une coïncidence. Puis elle se rappela Kala, Callahan.
« Je vois, mais la Skolpata n'est pas à vous. » « Ni à moi, d'ailleurs. »«
À qui, alors ?» D'une voix plaintive.
« À qui ?»
Et avant que son conscient ait pu l'arrêter, ou la censurer au moins, Susanna se vit en train de dire toute la vérité, celle connue de son cœur et de son âme.
« Elle appartient à la tour, Saï, à la tour sombre.
et c'est là que je la rapporterai, si le cas le veut.
Que les dieux vous accompagnent, Dame Sai.
Vous aussi, Mats. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
Elle regarda le diplomate suédois s'éloigner, puis baissa les yeux vers la tortue miniature et dit
« Voilà qui n'est pas commun, mon vieux pote Mats. »
Mia ne se souciait guère de la tortue. Elle n'avait qu'une seule préoccupation. «
Dans cet hôtel, dit-elle, il y aura un téléphone ?»